soutenir l'économie réelle en investissant dans le non-coté avec Haussmann Patrimoine.
Voilà, vous êtes toujours sur Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. On continue cette matinale qui est consacrée au soutien de l'économie réelle. On a vu ce que c'était justement l'économie réelle. On a vu comment acheter des actions de petites et moyennes entreprises. On va parler maintenant du non-coté, qui n'est pas forcément connu, et c'est tout l'intérêt justement de cet atelier. Bonjour Emmanuel Nara.
Bonjour.
Vous êtes dirigeant fondateur de Haussmann Patrimoine. Avant de débuter, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous présenter Haussmann Patrimoine ?
Oui, volontiers, merci. Donc Haussmann Patrimoine, c'est un cabinet de gestion de patrimoine que j'ai commencé à développer en 2004 et qui s'occupe de toute la partie gestion des actifs des clients privés. Donc on a globalement quatre activités principales, quatre piliers qui sont à peu près équivalents. Parfois c'est un gros quart ou un petit quart, ça dépend des années et des demandes des investisseurs. Donc on a une partie de conseil en allocation d'actifs financiers, assurance vie, PEA, compte titres, contrat retraite, etc. On a une autre partie qui est plutôt tournée vers la pierre papier, donc tous les investissements de type SCPI, mais pas seulement, puisqu'il y a beaucoup d'autres véhicules en pierre papier. On a également une partie immobilier en direct, immobilier d'investissement. Je dis bien immobilier d'investissement parce qu'on ne fait pas que de la défiscalisation. Il y a également beaucoup d'autres formes d'immobilier d'investissement hors cadre.
Hors Pinel.
Hors Pinel, voilà. Le Pinel, c'est probablement le dispositif qu'on fait le moins, pour tout vous dire. On a également donc une partie défiscalisation qui a représenté une partie assez importante à l'époque de l'ISF, avec la loi TEPA, où on pouvait justement pas mal défiscaliser, notamment grâce au non-coté. Mais on a toujours une activité aussi de défiscalisation dans la partie impôt sur le revenu.
Vous êtes présent sur tout le territoire ? Comment ça se passe ?
Alors en fait, on couvre tout le territoire et même au-delà grâce à Internet, puisqu'on s'est développé très tôt grâce au canal du web. On a aussi un bureau à Montpellier et on gère à distance. On a 60% de nos clients qui sont en dehors de Paris, région parisienne, donc c'est significatif.
Oui, et puis le distanciel en ce moment, on connaît. De toute façon, qu'on le veuille ou pas, on fait tout à distance maintenant.
Oui, de toute façon. Et bon, moi, j'ai vécu une époque aussi, une vie professionnelle avant de créer ce cabinet, où dans le groupe où j'étais, on avait beaucoup de relations avec les investisseurs à distance. Donc ça a toujours été pour moi un non-sujet. On peut créer du lien et de la relation par téléphone, par mail et maintenant par visioconférence quotidiennement.
Parfait. Merci beaucoup Emmanuel. Qu'est-ce que le non-coté ? Parce que c'est vrai qu'on en entend parler, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Qu'est-ce que le non-coté ?
Alors, le non-coté, c'est des investissements qui sont réalisés dans des actifs qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas cotés sur des marchés organisés, sur des marchés boursiers. Donc, tout le monde suit la bourse plus ou moins, parce que aux informations, on a toujours l'indice CAC 40 qui défile ou ce genre de news qui quotidiennement font partie de notre environnement. Donc la bourse, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Je vais quand même rappeler que ce sont des sociétés qui ouvrent leur capital et qui donnent un accès à leur capital à des investisseurs qui peuvent être aussi bien des institutionnels que des particuliers. Comme peuvent faire des transactions tous les jours pour acheter, revendre des parts de sociétés. Donc il y a des entreprises qui font la même chose, mais sans passer par les marchés boursiers, qui s'adressent directement aux investisseurs. Et les investisseurs, dans le non-coté, vont accompagner l'entreprise sur des durées beaucoup plus longues. Les transactions boursières, aujourd'hui, incitent à faire des mouvements souvent exagérés. Les transactions à la nanoseconde, ça n'existe pas dans le non-coté. On part sur une durée assez longue de plusieurs années. Donc ça fait partie des grosses différences. On va peut-être en reparler, oui. Mais le non-coté, c'est un univers où on s'intéresse beaucoup plus à la valeur de l'entreprise et beaucoup moins aux spéculations à court terme.
D'accord. Quel est l'intérêt d'investir dans cette classe d'actifs ?
Alors, les intérêts sont nombreux. D'abord, ça permet d'investir dans des entreprises, et c'est quand même une des solutions d'investissement les plus porteuses, à la fois en termes de protection à long terme contre l'inflation, puisque quand même, les entreprises, il faut avoir en tête que c'est un actif réel. On est bien dans cette thématique. C'est-à-dire qu'il y a des activités, des professionnels qui créent de la valeur. Et si on regarde sur la planète ce qui crée de la richesse, c'est les entreprises. La richesse, elle ne se crée pas toute seule. L'immobilier ne monterait pas si il n'y avait pas plus d'argent à investir dans l'immobilier. Et s'il y a plus d'argent à investir, c'est parce qu'il y a des entreprises qui ont créé de la valeur, des chefs d'entreprise qui ont pu créer de la richesse, créer des emplois, etc., etc. Donc, sur notre planète, la création de richesse vient des entreprises. Donc, c'est assez évident que si on veut s'enrichir, il faut aussi être actionnaire de sociétés rentables, bien sûr, puisque une société peut aussi avoir des difficultés, faire faillite, donc ça n'est pas garanti. C'est un placement où il y a un risque de perte en capital. Mais il y a vraiment des performances significatives et beaucoup plus fortes. Pour revenir sur votre question, l'intérêt d'investir dans le non-coté, les rendements obtenus sur le non-coté sont beaucoup supérieurs au marché actions.
Vous avez des chiffres, vous avez quelques données
Oui, bah, sur une quinzaine ou une vingtaine d'années, quand on regarde les statistiques officielles sur le non-coté, c'est à peu près 5% de plus par an sur le non-coté par rapport au coté.
Ah oui, c'est énorme, c'est 5 points de plus.
Oui.
Si par exemple, j'ai absolument n'importe quoi, le CAC 40 progresse de 3% dans l'année, ça veut dire que dans le non-coté, c'est 8%.
Alors, c'est le principe, mais c'est pas
principe,
linéaire.
Je dis pas, bien sûr, c'est pas automatique, voilà, on a bien compris.
C'est ni au jour le jour, ouais, ni année après année, mais en tout cas, sur des très très longues périodes, quand on observe sur des décennies même glissantes, on va dire sur les deux dernières décennies, à peu près toutes les périodes, on a à peu près 14 à 15% en moyenne de performance sur des actifs non cotés, alors que la bourse fait à peu près la moitié. Et d'accord, quand on fait du non coté obligataire, parce que là on parle de prendre une participation dans le capital de société, mais on peut aussi investir dans des obligations émises par des sociétés non cotées.
Donc là, ce sont des créances.
Voilà, c'est de la dette privée. Donc ce sont des obligations qui ne sont pas émises par l'État ou une grosse société du CAC 40. C'est des PME qui émettent de la dette. Et donc, c'est ce qu'on appelle des obligations corporates. Et là, le rendement moyen de la dette privée, c'est à peu près 7% sur longue période. C'est beaucoup plus que les obligations classiques ou d'État.
D'État, elles sont même négatives. Bah, alors là, vous perdez de l'argent. Donc là, ça ne peut pas être pire, on va dire.
Non, effectivement.
Est-ce que tout le monde peut investir dans le non-coté?
Alors, de plus en plus, la réponse devient oui. Alors qu'il n'y a encore pas si longtemps, ça restait une classe d'actifs réservée aux plus aisés, pour ne pas dire aux très grosses fortunes.
Oui, c'était surtout de la banque privée, du family office qui investit.
J'irais même que c'est descendu au niveau de la banque privée et du family office ces dernières années. Mais si on remonte un peu en arrière, le non-coté, c'était plutôt le terrain de jeu des investisseurs institutionnels. Donc les mutuelles, les caisses de retraite, des sociétés qui ont énormément d'actifs à gérer sur le très long terme et qui, justement, cherchent à générer plus de performance avec cette valeur temps. Ensuite, il y avait les très grosses fortunes. Donc là, je ne parle pas des gens qui sont à l'impôt sur la fortune parce qu'ils ont un appartement parisien. Je parle de gens qui ont plusieurs centaines de millions ou des milliards d'actifs. Donc ces gens-là investissaient massivement dans le non-coté historiquement. Et progressivement, il y a un phénomène donc de démocratisation qui a amené les banques privées, les family office et maintenant l'univers de la clientèle privée des conseillers en gestion de patrimoine. Donc on a maintenant des offres qu'on n'avait pas auparavant d'ouverture de fonds très intéressants.
Avec un ticket d'entrée, par exemple, moyen de combien?
Alors, il y a deux catégories, on va dire. Il y a tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros. Et puis en dessous. Alors au-dessus de 100 000 euros, c'est lié à la réglementation. Il y a toute une catégorie de fonds qui ne peuvent pas être souscrits en dessous de 100 000 euros. C'est des aspects vraiment purement réglementaires. Donc il y a une offre assez riche de fonds accessibles au-delà de ce ticket. Maintenant, il y a beaucoup d'autres offres qui sont apparues. Si, par exemple, on investit au travers de FCPR, les montants minimums peuvent être beaucoup plus bas. Et on peut aussi, au travers de l'assurance vie, investir maintenant dans du non-coté, puisqu'il y a eu des réformes qui ont permis justement d'augmenter la quote-part de non-coté dans les contrats d'assurance vie.
Notamment avec la loi Pacte. Hein.
Exactement. La loi Pacte a bien ouvert le jeu. Et c'est tant mieux, puisqu'on a quand même une vraie problématique de baisse de rendement avec les fonds en euros pour laquelle il faut trouver une alternative. Et comme l'assurance vie, c'est un véhicule a priori de long terme, c'est parfaitement adapté au non-coté. Donc aujourd'hui, sur des fonds en direct, il y a des choses assez étonnantes. On voit des minima qui peuvent descendre à 50 000, 30 000 euros, 10 000 euros, ce qui est vraiment très très éloigné de ce qu'on connaissait avant. C'était plutôt des millions ou des centaines de milliers d'euros. Donc là, 50, 30 ou 10 000 euros, c'est vraiment devenu très accessible. Et je vais même descendre jusqu'à 100 euros. Si on passe par l'assurance vie, le montant minimum, ça va être une centaine d'euros.
D'accord. Comment est-ce qu'on récupère sa mise dans le non-coté ?
Alors, on récupère sa mise lorsque les sociétés qui ont été achetées par la société de gestion sont revendues. On ne sait pas précisément à quelle date. On ne décide pas non plus du jour où on va récupérer sa mise. C'est pas comme la bourse où, effectivement, si cet après-midi... il me vient une lubie que je veux tout récupérer, je passe un ordre et dans la seconde, il est exécuté. Dans le non-coté, il faut vraiment avoir du temps et laisser les gérants faire leur métier pour valoriser et vendre dans les meilleures conditions les sociétés qu'ils ont choisies dans leur portefeuille. Donc en général, ça prend entre 5 et 10 ans, ça peut être un peu plus court, ça peut être un peu plus long. Ça dépend aussi du secteur d'activité. Il y a des secteurs qui se prêtent bien à des sorties rapides et puis d'autres qui demandent énormément de temps. Par exemple, le secteur de la santé, c'est très long. Les cycles sont très longs.
D'accord. Donc il y a effectivement la société est rachetée. Alors, moyenne de voilà.
Elle est rachetée.
Parce qu'il y a différentes sorties. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de sorties que l'on pense. Et surtout, quand on a préparé cet atelier, vous avez pointé le fait que, contrairement à ce qu'on pense, en fait, c'est peu la cotation. En fait, la cotation représente une part infime des sorties.
Oui. Alors, la sortie par IPO, donc introduction en bourse, est un des moyens, effectivement, de finir l'histoire d'accompagnement de l'entreprise en non-coté. Mais c'est loin d'être le seul scénario. Il y a aussi d'ailleurs le phénomène inverse. Hein. Il y a des sociétés qui sont cotées en bourse et qui sont retirées de la cote pour être ensuite...
En ce moment, il y a même un mouvement.
Il y a un mouvement, effectivement, parce que la bourse a énormément de parasites qu'on n'a pas dans le non-coté. Et il y a des sociétés qui font le choix, effectivement, de se retirer de la cote et donc arrivent dans l'univers du non-coté. Donc on peut sortir du non-coté soit par des opérations de rachat, par même les employés, des opérations d'OBO, des opérations
de transmission. Donc en fait, le management qui rachète l'entreprise.
C'est une des solutions. Après, le plus courant, c'est un groupe concurrent qui décide de faire de la croissance externe et qui décide donc de racheter la société.
D'accord. Qui veut, par exemple, acquérir une technologie beaucoup plus rapidement. Donc,
ça peut être une technologie, ça peut être une marque, ça peut être des parts de marché, une course à la consolidation qui est dans beaucoup de secteurs.
Ouais. Alors, vous l'avez dit, effectivement, c'est une épargne de long terme. Il y a aussi des obligations légales sur certains fonds. En fait, de toute façon, on est obligé de rester un certain nombre de temps. On ne peut pas vendre sa part. Tout de suite, il faut respecter un certain délai.
Oui, c'est une des caractéristiques importantes qu'il faut avoir à l'esprit, et c'est ce qui fait aussi que le modèle peut se développer de manière vertueuse, c'est que les fonds sont stables. S'ils sont stables, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir quand on veut. C'est la contrepartie. En fait, pour bien comprendre, en bourse, on paye très cher la liquidité. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de récupérer effectivement son argent très très vite, mais à n'importe quel prix. Et parfois, ça peut être totalement déconnecté de la réalité. Dans le cadre de l'investissement non-coté, on accompagne une société dans un projet de développement, on lui confie des capitaux pour réaliser ses projets, et on sait pertinemment que pendant plusieurs années, on ne va pas retirer le soutien qu'on a apporté à l'entreprise pour faire autre chose. Donc on va bloquer une partie de son patrimoine dans ce projet. Et la société va donc pouvoir prospérer. Avec un peu de chance, la sortie se fera plus tôt que prévu. Si le marché n'est pas favorable et qu'il vaut mieux attendre un an ou deux de plus pour le revendre dans de meilleures conditions, ben, il faut laisser du temps au temps. Donc ce sont des actifs qui sont bloqués jusqu'au jour où l'opportunité de sortie se présente.
Parfait, très bien. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, l'intérêt de ces ateliers, c'est que vous avez répondu à mes questions, mais que vous allez aussi répondre aux questions des internautes.
Voilà.
Donc, on va passer maintenant aux questions des internautes.
Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.
Alors, je le rappelle, hein, il y a deux possibilités, chers internautes, de poser vos questions. Soit vous avez la possibilité de poser vos questions en amont, au moment où vous êtes inscrit, vous avez rempli un formulaire et vous aviez la possibilité de poser des questions. Et puis, bien sûr, et c'est tout l'intérêt du live, vous pouvez poser vos questions maintenant grâce au chat. Donc, première question qui a été posée en amont. Quelle part de son patrimoine on peut consacrer au non-coté ?
Alors, il y a un chiffre qui revient souvent, avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, qui est de dire qu'il faut investir au maximum 5% de son patrimoine dans le non-coté. Tout dépend en réalité de la surface patrimoniale. Il est évident qu'une grosse fortune peut très bien bloquer des pourcentages importants de sa fortune sur des longues périodes. Ça ne posera aucun problème dans la gestion et ses besoins courants. Par contre, un investisseur qui ne peut pas se permettre d'immobiliser durablement des capitaux va forcément devoir réduire la voilure. Donc le chiffre de 5 à 10%, il est quand même intéressant, je dirais, pour la grande partie des investisseurs qui, comme vous et moi, s'intéressent à cette classe d'actifs. Donc c'est bien de l'avoir à l'esprit. Après, il y a également certaines règles qui peuvent être imposées soit par la réglementation ou les assureurs. Si on fait du non-coté dans des contrats d'assurance vie, par exemple, très souvent, il y aura une limite de l'ordre de 5 ou 10 % du montant du contrat qui pourra être alloué au non-coté. Donc finalement, ce ratio, soit c'est prudentiel, on va dire, je ne veux pas immobiliser des capitaux trop longtemps, toute ma fortune dans du non-coté. Je reviens sur un point sur l'assurance vie. Il y a une différence importante, c'est que l'assureur va nous libérer de la contrainte du blocage.
Oui, alors manière. C'est vrai que c'était une des... Il y avait justement une question. Est-il judicieux d'investir dans le non-coté dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie ? Donc, vous l'avez dit, effectivement, c'est limité, mais il y a des avantages en contrepartie.
Oui. Alors, la règle des 5 à 10 % elle repose sur deux principes. Le principe que c'est un placement risqué, d'une part, puisqu'on investit dans des sociétés, et... c'est un placement illiquide. Or, dans l'assurance vie, l'illiquidité, c'est un risque qui est porté par l'assureur. Donc, c'est de ce fait deux fois moins risqué, d'une certaine manière. En tout cas, il y a un des deux risques qui est déporté sur un tiers.
Donc, concrètement, en fait, vous pouvez faire un rachat avant, par exemple, les 10 ans.
Tout à fait.
Vous pouvez faire un rachat partiel. L'assureur est tenu de vous verser les sommes. Après, à lui... en fait, de se débrouiller pour vendre, pas vendre.
Absolument.
Ça, c'est son problème. Ce n'est pas votre problème.
Voilà. La compagnie d'assurance, si vous faites un rachat, elle doit vous rendre l'argent dans un délai de 1 à 2 mois maximum. Ça veut dire que si les actifs, évidemment, ne peuvent pas être liquidés dans un délai de 1 à 2 mois, ce qui est évident compte tenu de tout ce qu'on a dit précédemment sur cette classe d'actifs de non-coté, ça veut dire que l'assureur va garder cet actif dans son bilan et attend peut-être qu'un autre investisseur souhaiterait investir derrière, mais au pire, c'est lui qui va porter cet actif-là. Ce qui est un élément intéressant parce que, du coup, ça veut dire que les titres non-cotés qui sont proposés dans les contrats d'assurance-vie ont été présélectionnés par la compagnie d'assurance qui doit accepter le principe que ça peut être un investissement qu'elle va porter pour elle-même.
D'accord, donc il y a une sorte de tri En fait, il y a eu déjà un premier tri, et puis surtout, en fait, une sorte d'historique. En fait, c'est ça que vous voulez dire. En fait, c'est parce que déjà, en fait, elle l'a utilisé pour elle-même. Elle a vu les performances, elle a vu la liquidité. Donc, c'est pour ça qu'elle le propose à ses clients.
Oui. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le côté sélection. Une compagnie d'assurance qui va choisir des grands noms du non-coté pour avoir des très belles sociétés de gestion rassurantes avec un bon track record et des bonnes performances passées. Même si elle ne présume pas, évidemment, des résultats futurs, on voit bien qu'il y a des équipes qui ont un vrai savoir-faire. Il y a également des compagnies d'assurance qui ont leurs propres équipes de non-coté pour elles-mêmes. C'est-à-dire qu'une compagnie d'assurance, je ne sais pas si je peux citer un nom de groupe, peut-être pas faire de publicité, alors je vais être évasif, mais une compagnie d'assurance, par exemple, va avoir une partie de ses actifs à placer dans le non-coté, va peut-être acheter des infrastructures, des investissements à très très long terme. Les frais de gestion vont être vraiment minimum, puisqu'elle va recruter sa propre équipe de gestion pour faire les investissements et la gestion de ses actifs.
Oui, là, il n'y a pas de délégation à une société de gestion.
Il n'y a aucune délégation, tout est intégré, c'est une gestion, en fait, pour eux-mêmes, avec leurs propres équipes, et ils peuvent décider d'ouvrir une poche dans leurs propres investissements à des particuliers qui sont des porteurs, des souscripteurs de contrats d'assurance vie. Donc là, on est vraiment directement en alignement d'intérêts avec un institutionnel qui le gère de manière professionnelle, avec des frais de gestion extrêmement bas, et donc un potentiel de performance très intéressant à
D'accord.
long terme.
Donc si j'entends bien, par l'assurance vie, vous avez l'assurance, sans être redondante, de la liquidité,
oui.
Et puis aussi d'une certaine sélection, même une sélection certaine, qui donne un potentiel de rendement assez important. Alors j'imagine que c'est comme tout, hein, il y a une contrepartie à ça, il y a des frais, j'imagine, peut-être plus importants.
Oui, clairement, à partir du moment où l'assureur offre un service supplémentaire et une réduction de risque en assurant la liquidité, il va prendre des frais de gestion sur son contrat d'assurance vie et ça coûtera un peu plus cher que si vous détenez le même actif en dehors de l'assurance vie. Cela dit, il y a des sous-jacents, des supports d'investissement non cotés qui ne seront accessibles que dans l'assurance vie.
D'accord.
Il y a des fonds qui ne seront pas accessible autrement que dans cette enveloppe.
Alors tant qu'on est dans les frais, là cette fois-ci c'est une question en direct par le chat. Quels sont les frais d'entrée, de gestion et de sortie de ces fonds? J'entends en dehors de l'assurance vie. Hein, là c'est l'acquisition de parts en direct. Voilà, quels sont les grosso modo la moyenne des frais d'entrée, de gestion et de sortie?
Alors, en frais d'entrée, ça va dépendre des signatures. En fait, plus la société a des performances probantes, plus les équipes sont réputées et plus ils vont se permettre d'imposer des droits d'entrée élevés. Parfois, ça peut être 5% non négociable, même si vous voulez placer plusieurs millions d'euros. Donc, je ne vais pas citer de nom, mais je connais des sociétés de gestion où, effectivement, les droits d'entrée, c'est 5%, quel que soit le montant, non négociable. Et personne ne discute, puisque les performances sont à la hauteur.
Après, et parce qu'aussi, ils ont beaucoup de clients. Enfin, je veux dire, ils peuvent se permettre aussi, de toute façon, si ce n'est pas vous, ça sera quelqu'un d'autre.
Tout à fait. Après, c'est l'offre et la demande. Donc, on peut descendre jusqu'à 0% de frais d'entrée. Après, la question qu'il faut se poser, c'est voilà, est-ce qu'on a la même qualité d'équipe en face sur des personnes qui pratiquent du low cost et puis ceux qui pratiquent des frais d'entrée plus élevés. Sur les frais de gestion, ça dépend en fait. Sur une gestion institutionnelle, on va avoir des frais fourchette basse, ça va être autour de 2% par exemple, et puis ça peut monter à 5% voire un peu plus sur des fonds plus ouverts. Par contre, il faut bien avoir en tête une chose, c'est que le métier du gérant de non-coté, c'est pas du tout le même métier que le gérant de fonds OPCVM classique. Alors, je veux absolument pas dénigrer, évidemment, ce métier-là, qui est un métier également très technique. Mais d'un côté, vous avez un gérant qui est devant des écrans et qui passe des ordres d'achat et de vente, qui analyse les comptes des sociétés, qui sont des documents formatés. Hein. Dans le secteur boursier, tous les documents existent, sont disponibles, il y a des analyses, et on passe ces ordres en un clic. Celui qui fait de la gestion de non-coté, Il va aller sur le terrain, il va devoir créer ses propres outils de reporting, d'analyse de la société, il va s'impliquer opérationnellement, surtout s'il est majoritaire, puisque dans le non-coté, vous avez en fait deux grands univers. Il y a ceux qui rentrent dans une société en étant minoritaire. C'est le cas, par exemple, des FCPI, des FIP, des produits de défiscalisation assez grand public et qui sont minoritaires. Mais vous pouvez aussi être majoritaire, et c'est là où on peut obtenir les meilleures performances, parce que la société qui investit ne met pas que de l'argent, elle y met aussi un savoir-faire et une capacité à emmener beaucoup plus loin et beaucoup plus vite la société dans laquelle elle investit.
D'accord,
donc c'est un travail beaucoup plus intense, et donc c'est normal que les frais de gestion ne soient pas les mêmes.
Alors justement, ils sont de combien? Parce que vous avez dit que les frais d'entrée, ça pouvait aller jusqu'à 5%. Les frais de gestion, ça peut aller jusqu'à combien?
Entre 2 et 5%. Après, je n'ai pas en tête les maximums qui peuvent peut-être exister dans d'autres fonds, mais en général, on est dans ces eaux-là.
Et pour ce qui est des frais de sortie?
Ben, en principe, il n'y en a pas.
D'accord.
On attend que le fonds soit dissous. Alors, il peut y avoir des pénalités pour des fonds qui prévoient la possibilité de sortir avant le terme, ce qui n'est quand même pas la règle. Mais en général, à la sortie, il n'y a pas de frais et il n'y a pas de fiscalité dans la plupart des cas, puisqu'il y a beaucoup de fonds qui, au-delà de 5 années de détention, offrent une exonération d'impôt sur les plus-values.
Autre question posée sur le chat. Que pensez-vous de l'investissement dans le crowdfunding? Il faudra juste rappeler d'ailleurs ce que c'est le crowdfunding. Et dans des associations participatives type Habitat ou Humanisme ou Terre de Liens qui obligent à minima un blocage de 5 ans pour profiter de l'abattement fiscal de 25%.
Alors, sur le crowdfunding, c'est, on va dire, une forme peut-être un peu de non-côté, mais enfin, c'est quand même très, très différent. D'abord parce que là, pour le coup, vous allez directement décider de donner quelques centaines d'euros à des sociétés sur des plateformes qui lèvent des fonds pour des projets. Donc là, vous n'avez pas un travail d'analyste, de gérant, et encore moins une implication dans l'avenir de la société pour l'aider à se développer. Il faut quand même juste avoir en tête qu'une société sous LBO a une croissance 2 fois plus forte qu'une société classique. Hein. Donc là, vous allez rentrer dans des sociétés de toute taille, donc vous ne connaissez pas forcément le business model, ni le niveau de risque, donc vous allez saupoudrer et donner un petit peu d'argent à tout le monde pour avoir finalement un rendement correct s'il y a pas trop de sinistres, mais vous aurez jamais les multiples que vous pouvez avoir sur certains fonds de non-côté qui peuvent réaliser des fois des performances de plus de 100%, pas sur la durée globale, mais des fois c'est plus de 100% par an. Il y a des success stories considérables dans le private equity.
D'accord. Et juste les associations participatives
Alors là, c'est un autre sujet aussi.
D'accord.
Très intéressant, qui mériterait d'être développé peut-être dans le cadre d'une émission à part entière. Il y a une dimension sociale qui est vraiment intéressante. Il y a un avantage fiscal à l'entrée et on peut avoir effectivement un montage globalement attractif en termes de rendement, mais vous ne viserez pas les multiples que je viens de citer.
D'accord, mais c'est pour soutenir une bonne cause quand même.
Absolument.
Toujours sur le chat, est-il intéressant de conserver son assurance vie compte tenu de la baisse des rendements et des frais élevés? Là, on est un peu plus loin du non-côté, mais bon, c'est voilà. D'une manière générale, on vous pose la question. Est-ce qu'il faut garder son assurance vie?
Alors, vous pouvez la garder si elle vous permet de vous adapter aux changements de monde dans lequel on vit. Si vous avez un contrat très ancien, avec 2 ou 3 supports qui se battent en duel et qui ont des performances moyennes, peut-être il est temps de penser à changer de cadre. Mais si vous avez un contrat qui est évolutif, qui vous propose quelques centaines, voire quelques milliers de supports, que vous avez soit la connaissance pour faire votre choix, ou un conseiller en gestion de patrimoine, ou un conseil qui peut vous aider à construire un portefeuille qui s'adapte, l'assurance vie, c'est un cadre fiscal. Donc on n'est pas condamné à faire du fonds en euros quand on est en assurance vie.
Voilà, il faut juste rappeler que l'assurance vie est l'un des rares placements qu'on ne peut pas transférer. On ne peut pas transférer son enveloppe dans un autre contrat, sauf, et depuis peu, depuis la loi Pacte, sauf si on garde le même assureur. C'est ce qu'on appelle la transférabilité partielle. Bon, force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup d'assureurs qui le proposent, et surtout, il n'y a pas beaucoup d'assureurs qui jouent le jeu. Mais bon, je dis rien.
Ouais.
Là, cette fois-ci, c'était une question posée en amont, et on finira par celle-là. Quelle valorisation est pris en compte au moment du décès?
Ben c'est la dernière valeur connue auditée, puisque les fonds de non-coté, même s'il n'y a pas de transaction quotidienne, sont à date fixe évaluées sur une valeur qui est généralement inférieure à la réalité, puisque de toute façon, il n'y a pas réellement d'intérêt à gonfler une valorisation d'un portefeuille qui ne va pas être vendu tout de suite. Donc on regarde les principales métriques comptables, on fait une cote mal taillée pour essayer de dire voilà, ça vaut à peu près ça, mais la vraie valeur, on la connaît au jour où c'est vendu. Et généralement, il y a un gap positif sur justement les derniers mois, au moment où un deal est fait, soit qu'il y a eu une introduction en bourse, soit qu'une vente a été signée. C'est ce qui fait que ces fonds-là ont ce qu'on appelle une courbe en J. C'est-à-dire que pendant une période assez longue, soit la valeur est stable ou en légère baisse, il y a juste les frais de gestion et qu'on ne revalorise pas les participations. Et puis, vers la fin de la vie du fonds, ça se précipite un petit peu parce que toutes les transactions se dénouent, les vraies valeurs apparaissent. Et si on est dans un scénario positif, la valeur monte en flèche sur la fin de vie du fonds. Donc, s'il y a un décès en cours de route, ça sera la valeur officielle, expertisée par les commissaires aux comptes, mais souvent en dessous de la valeur réelle, ce qui n'est pas plus mal pour les successions.
Bah oui, ça fait moins de droits de succession à payer. Parfait. Bah merci beaucoup, Emmanuel. Merci d'être venu nous parler du non-coté. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai tout compris. Et c'était le but, quand même.
Merci
beaucoup, chers internautes. C'était le dernier atelier de cette deuxième édition de Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. On vous donne rendez-vous pour la troisième édition, qui aura lieu du 21 au 23 juin, toujours avec le même procédé, du live en direct sur Internet. Et cette fois-ci, ça sera un spécial bourse. On ne parlera que du coté, cette fois-ci. Et en attendant, portez-vous bien.
Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.